et bienvenue autour de cette grande table du mercredi. Une diplomatie féministe est-elle possible? Rendez-vous à partir de 12h55 avec l'ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström. Elle est au cœur d'un documentaire de Feminister de Victor Nordenkål présenté au FIPADOC qui a ouvert ses portes hier à Biarritz. Mais d'abord, New York, les années Sida. Traducteur de Brecht et de Corneille, le dramaturge américain Tony Kushner fait son entrée au répertoire de la Comédie française avec Angels in America, adapté par notre invité, le cinéaste Arnaud Desplechin, qui signe ici sa deuxième mise en scène après Père de Strindberg. C'était il y a 4 ans. À la fois poétique et politique, Angels in America est à voir jusqu'au 27 mars, salle Richelieu, à la Comédie française à Paris, avec Clément Hervieux-Léger, Dominique Blanc ou encore Michel Villeurbose, une pièce pour 7 acteurs dont nous parle tout de suite Arnaud Desplechin. C'est sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
De la caméra à la scène, comment le réalisateur de Comment je me suis disputé d'un conte de Noël ou encore dernièrement de Roubaix, Une lumière, vit ce changement d'échelle, voire ce changement de décor. Bonjour Arnaud Desplechin.
Ah bonjour Olivia.
J'ai dit 7 acteurs, il y en a 8 sur scène.
8 acteurs.
Et une vingtaine de rôles à interpréter, à se partager ensemble. Tony Kushner est donc l'auteur, le dramaturge de cette pièce Angels in America. Sa voix, on l'écoute.
We thought that the play should be ideally about 2.5 hours long completely. Yeah. But as I was writing it, it just kept getting longer and longer and seemed to need more and more space and time.
Et qu'est-ce qu'il dit? Nous dit Tony Kushner, nous pensions que cette pièce devait idéalement faire 2h30. Mais alors qu'il était en train d'écrire, elle s'est allongée, rallongée. Elle semblait visiblement avoir besoin de plus d'espace et de temps. Prix Pulitzer, Angels in America, c'est un texte écrit pour le théâtre, avec un premier volet, écrit, sorti en 87. Puis, face au succès, Kushner se remet au travail et écrit la suite, publiée en 89. Elles sont réunies aujourd'hui, parfois, en 2 parties. Ensemble, ça fait 7 heures. Vous, 2h50, comment avez-vous procédé, Arnaud Desplechin, à cette réduction?
Dans la fièvre. On me demandait, dans l'ascenseur qui me conduisait vers le studio, mais alors c'était très difficile d'écrire une telle réduction. Je connaissais bien le texte. Je le connaissais bien pour l'avoir découvert, mise en scène par Brigitte Jacques-Vageman, dans une mise en scène sublime, où c'était les 7 heures de représentation, c'était une journée, et qui était vraiment une mise en scène merveilleuse. Moi, mon projet était plus humble, où puis il y avait le dépôt du temps, c'était de la condenser. Et plus je la condensais, si vous voulez, j'ai tenu à garder la structure de la pièce, à être très très fidèle. Vous voyez, par exemple, dans la version HBO, on voit pas l'URSS, parce que ça regardait pas les États-Unis dans la version de Mac Nichols. Moi, j'ai tout gardé.
C'était une série.
C'était une mini-série.
Avec un casting dingue, quand même.
Oui, avec Al Pacino,
Meryl Streep,
etc. Et en condensant, ça a enflammé les rapports amoureux. Et ça m'a frappé, c'est que connaissant bien le texte, connaissant la pièce, l'ayant vu à la télévision, au théâtre, il m'a semblé qu'on voyait mieux les parcours amoureux de chacun des personnages. Et alors du coup, j'étais saisi dans cette fièvre, et puis je l'ai proposé à Eric Ruff, qui m'a dit oui finalement. Et j'étais très fier parce que il me semble que la pièce n'a rien perdu de sa profonde subversion, de sa véhémence. Et en même temps, aujourd'hui, c'est un texte classique. Et je peux m'accrocher ça comme médaille. C'est j'ai fait rentrer Kushner au répertoire. Donc, il peut être joué pour des siècles et des siècles dans le théâtre de Molière. Du coup, je suis hyper fier.
Elle a sa place à la Comédie française, cette pièce, justement. En quoi? C'est assez étonnant, quand même.
Parce qu'elle est choquante. Et parce qu'il faut des textes qui viennent choquer le temps. Parce qu'aussi, elle est shakespearienne. Parce que c'est une pièce, c'est le contraire d'une pièce didactique. C'est elle prend le monde qui est dans un fracas, le monde qui était incompréhensible dans les années Sida et qui est toujours aussi incompréhensible mais d'une manière différente, et elle met le monde sur scène. Et voilà, et du coup de ramener le scandale et le classicisme Kushner au cœur de Paris, place Colette, c'était vraiment le théâtre où je voulais monter cette pièce.
Mais ça, c'est ce que vous dites, Tony Kushner, c'est mon Shakespeare à moi. Mais c'est vrai que le propre des classiques et des pièces, aurait-on tendance à penser qu'on fait entrer au répertoire de la Comédie française, c'est d'être indémodable. Là, il y a quand même une temporalité dans cette pièce, mine de rien, c'est les années 80, la fin des années 80. Le mot sida est prononcé pour la première fois aux États-Unis en 85 par Reagan. À New York, à la fin des années 80, les corps tombent. Mm-hmm. Beaucoup d'artistes sont frappés mortellement par la maladie, des artistes homosexuels, gays. Mm-hmm. Il y a, pour Kushner, dans son envie d'écrire cette pièce, on imagine un cri d'alerte qui est lancé. Mm-hmm. pour vous, cette pièce, elle est quand même indémodable?
Elle est indémodable. J'ai été très frappé, pas par un film, comme beaucoup de spectateurs, par le film de Campillo, 120 battements par minute. C'est de voir les combats d'hier ou de voir les victimes d'hier, mais tellement à habiter le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, de voir la grandeur. Je pense au dernier monologue de Pryor, qui est ce personnage qui est atteint du sida dans la pièce et qui est joué par Clermont Hervieux-Léger, et qui a un texte sublime, et la performance de Clément est tellement vibrante. Et il nous parle aujourd'hui, et c'est les morts d'hier qui nous parlent aujourd'hui. Et il y a une émotion et une fierté à habiter un monde qui est... On se dit, mais mon Dieu, toutes les épreuves qu'on a traversées, on regarde mieux. Vous disiez shakespearien, vous voyez, je pense à Michel Villermoz qui joue Roy Cohn, qui est notre Richard III à nous, vous voyez, qui est très très méchant. Alors même si vous connaissez pas maintenant que, vous voyez, toutes les histoires de que l'hiver de notre déplaisir, alors il y a tous des mots codés de Shakespeare pour décrire les différents royaumes, vous savez plus, parce que c'est passé, vous connaissez pas forcément l'histoire de l'Angleterre. Et pourtant, Richard III, il est contemporain, comme Roy Cohn est contemporain. Cette figure du mal, ou plutôt de la transgression, enfin du mal et de la transgression de Roy Cohn, elle vient raviver, elle est très très frappante aujourd'hui, il me semble.
Vous n'avez pas cherché visiblement à franciser l'histoire, ni à la moderniser, comme Warlikowski en 2007, qui l'a aussi mise en scène, et qui faisait du sida, dans sa version, une maladie un peu métaphorique, une sorte de métastase du monde, mais à l'universaliser. C'est ce que vous nous dites, Arnaud Desplechin. Par quoi ça passe, ça? À un moment, en ouverture de la pièce, le rabbin dit « l'Amérique, ça n'existe pas ».
Oui, parce que personne ne se mélange. Alors, il ouvre. C'est curieux parce qu'il dit à la fin du monologue du rabbin qui est joué par Dominique Blanc, Isidore Remelwitz, et dit les grands voyages n'existent plus. Et la pièce est un grand voyage. C'est-à-dire la pièce vient contredire ce voyage. Il est en vous, finit-il par conclure. Donc la pièce est un voyage. On se dit, l'époque de l'immigration, des choses, etc., est terminée. Et elle n'est pas terminée. Elle continue à avancer. Mais je sais, tout dans la pièce vient vibrer. Vous savez, je parlais de ce rôle de Roy Cohn, de ce républicain, de cet avocat véreux comme ça qui a assisté McCarthy. Il se trouve que le désir de monter la pièce est né quand le jour où Trump a été élu. Je savais que Roy Cohn avait été le premier mentor de Trump après avoir été l'assistant de McCarthy. Et tout d'un coup, il y avait une espèce, et après avoir travaillé sous les années Reagan, et tout d'un coup, de Reagan en Trump, il y avait un bégaiement de l'histoire que je comprenais pas. Et je me disais, quand on comprend pas quelque chose, on en fait du théâtre.
On va l'écouter, Roy Cohn, interprété ici par Michel Villermoz, extrait de Angels in America, actuellement sur la scène de la Comédie Française.
Je me soignerai tout seul.
Avec quoi?
Acide, je ne sais quoi.
Azithromycine.
Gesundheit.
De l'azeté, vous en avez?
Potion magique de premier choix, rends-moi les clés.
Vous avez réussi.
Je suis le meilleur.
Il y a de quoi ouvrir une pharmacie, là. Il y a tout au plus 30 personnes dans ce pays à avoir ce médicament.
Attends, il y en a 31.
Mais 100 000 en ont besoin. Et vous êtes là? Un dragon trônant sur son tas d'or?
Remis, tes gros yeux fulminants dans leur étui, mon ange. Que sur cette terre, les richesses soient inégalement partagées, me laisse de glace.
Même si vous viviez encore un demi-siècle, vous ne pourriez pas avaler tous ces comprimés. J'en veux.
Tu violerais la loi.
10 flacons.
Je te dénoncerai.
Je suis syndiqué, ils n'ont pas assez de personnel. J'ai des amis qui en ont besoin, c'est urgent.
Sens très poussé de l'amitié, j'admire, mais je refuse.
Pourquoi?
Parce que toi et tes amis, vous êtes des impudents culottés, et je vous hais. Voilà pourquoi j'en veux, comme si ça vous était dû. Ça fait mal, hein, quand vient le moment de payer la facture.
Voilà, un mot de cette figure centrale dans la pièce, aux côtés d'autres, on va y revenir, de Roy Cohn, interprété par Michel Villermoz avec son infirmier.
Gaël Camilindi.
Voilà, avocat Roy Cohn notoire, du macartisme, qui a envoyé Ethel Rosenberg, la juive communiste, à la chaise électrique, homophobe mort du sida, après avoir prétendu être malade d'un cancer du foie. C'est un affreux jojo, hein, ce Roy Cohn, sans scrupules, qui a vraiment existé et qui fait irruption donc dans cette fiction de Tony Kushner que vous mettez en scène, Arnaud Desplechin, et que nous raconte en quelques mots aussi Pierre Laville, auteur de la version française d'Angel in America. Il faut rendre un peu à César aussi ce qui lui appartient.
Aujourd'hui, la pièce, on ne connaît plus très bien Reagan, mais le personnage Roy Cohn, qui est le traître parfait, le traître absolu de la pièce, l'homme du macartisme et de l'oppression américaine dans ce qu'elle a eu de plus horrible, s'incarne de manière assez fascinante dans plusieurs scènes, dans l'image qu'on a de Trump, de Donald Trump aujourd'hui. Ça a été un mentor de Trump, et il a...
Car c'était un ami de son père.
Absolument. Et dans la politique d'immigration de Trump aujourd'hui, par exemple, ou de l'anti-écologie que nous connaissons, il y a dans la pièce les contre-feux de tous ces arguments, comme si c'était écrit exprès, et c'était il y a 30 ans.
Voilà, alors Pierre Laville, auteur de la version française intégrale aussi d'Angels in America, qui n'en est pas à sa première collaboration avec Tony Kushner, puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble sur la version en langue française de Slaves pour le théâtre de la Colline et pour Homebody, monté à la Comédie française au théâtre du Vieux Colombier. Sur ce personnage de Roy Cohn, Arnaud Desplechin, comment il arrive là comme incarnation de l'Amérique, de Reagan, c'est ce qu'on entend aussi ici.
Ah, oui, il incarne l'Amérique et il incarne l'Amérique. Je vais vous répondre avec un pas de côté, c'est qu'il me semble que chacun des huit acteurs qui jouent leurs personnages principaux incarne l'Amérique à sa façon. Roy Cohn, c'est l'Amérique de Reagan, l'Amérique de Trump, l'Amérique effroyablement conservatrice, l'Amérique paradoxale, parce que c'est cette homosexuel, homophobe, juif, antisémite, raciste, c'est tous les péchés de l'Amérique. Et en même temps,
qui va pouvoir s'offrir des traitements que les autres
qui magouille avec la première dame des États-Unis pour avoir la ZT quand la ZT est encore introuvable, et en même temps il incarne le théâtre, c'est-à-dire vous avez un plaisir d'enfant à voir Michel en scène parce qu'il transgresse tellement que si vous voulez, vous ne pouvez que, c'est pas que vous l'aimez, c'est qu'il vous terrifie et du coup vous adorez voir cette transgression, le fait que le type n'a aucune limite, et dans ce fait qu'il transgresse, dans ce fait qu'il soit un méchant hors norme, il incarne le théâtre dans sa puissance de représentation. Je vous parlais de Richard III, mais c'est quelque chose qu'on pourrait dire de chacun des acteurs de la pièce.
Oui, et juste sur l'Amérique, est-ce qu'il incarne le théâtre. Oui, on va revenir sur les autres, justement, comme archétype, peut-être, mais est-ce qu'il incarne aussi, Roy Cohn, l'injustice? Parce qu'il est beaucoup question de justice dans cette pièce aussi, justice humaine, mais justice divine.
Oui, il incarne la méchanceté d'abord. C'est vraiment la méchanceté. C'est la haine. C'est une haine vive, comme ça. C'est quelqu'un qui se nourrit de haine. Je ne sais pas si c'est l'injustice. C'est quelqu'un qui s'en fout de la justice. Il s'en fout totalement de... Je vous disais, il est dans la transgression. La justice n'est pas ça, la question à l'intérieur. C'est ça qui est monstrueux chez lui, c'est à quel point la justice ne l'intéresse pas. C'est un concept, il le dit dans la scène que vous venez de passer. Il dit, moi, vous voyez, que les gens que les richesses soient justement partagées, c'est vraiment pas mon affaire. La justice ne le concerne pas.
Mais c'est lui l'avocat, c'est lui l'homme de droit. Deux couples qui s'entrelacent aussi dans cette pièce. D'une part, le duo Mormon, Harper et Joe. Elle, accro au Valium, lui, homo refoulé. Et d'autre part, Pryor, séropositif, qui entre en dialogue avec les anges, et son compagnon, Louis, qui ne va pas supporter de le savoir malade et qui va le quitter avant de rencontrer Joe, le mormon. En quoi, eux, sont-ils d'autres archétypes de l'Amérique pour vous?
Oh, je pense à Christophe Montenez qui joue Joe, qui est ce jeune homme républicain qui a voté pour Reagan et qui croit, il a une phrase merveilleuse au tout début de la pièce, il dit « L'Amérique avait honte et c'est affreux d'avoir honte. Maintenant, l'Amérique n'a plus honte d'elle-même. » Et c'est cette idée qu'il faut pas avoir. Et il va découvrir son homosexualité au cours de la pièce et il a cette audace d'oser se regarder vraiment, de dire, bah voilà, il y a une scène qui me bouleverse à chaque fois que je la vois, quand il téléphone et qu'il fait son outing devant sa mère, enfin pas devant, au téléphone avec sa mère qui est à Salt Lake City, qui est jouée par Dominique Blanc, et il ose se regarder en lui, et cet espoir, cet idéalisme, il me fait penser à chaque fois que je regarde, vous voyez, à Gary Cooper jeune, dans ses rôles de jeune républicain comme ça, et vous pouvez pas le juger parce qu'il y croit tellement, il a une telle foi, et dans cette foi dans son pays, elle est tellement américaine, et en même temps, il est une figure héroïque, puisque c'est par lui, c'est à travers c'est le naïf, si vous voulez, à qui toute l'histoire arrive, qui va découvrir, il vient de Salt Lake City et découvre Manhattan, il découvre Roy Cohn, le mal, il découvre son homosexualité, il découvre l'amour avec Christophe Montenez.
Il découvre tout ce qu'il a refoulé, hein, aussi, et tout ce parce qu'il raconte à plusieurs reprises. Ce mal qui était niché en lui, son homosexualité, qu'il a essayé de cacher, de transformer, et puis qui ressurgit. Il a essayé d'être un homme bien.
Et puis il a horreur de son homosexualité, il a cette bravoure de ne plus en avoir horreur à partir du moment où il aime. Et dès qu'il aime Louis, Voilà, ça y est, il est parti et il se reconnaît. Et c'est cet héroïsme de la figure en fait une figure de théâtre, à mon avis.
Alors, vous parlez de ces archétypes d'Américains aujourd'hui. La question des identités, elle est quand même aussi présente dans la pièce, hein, puisque on y retrouve ce qui fait aussi l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. Ils sont juifs, ils sont gays, ils sont noirs, ils sont mormons, ils sont tous quelque chose. Et au-delà de tout ça, sont-ils américains ? C'est ça qui les réunit ?
Ce qui les réunit, oui. J'ai l'impression que c'est avec le recul du temps, c'est ce qui fait vraiment de Kushner, hein, qui a vu une vérité dans laquelle nous vivons tous aujourd'hui. C'est le fait que, à travers principalement la singularité juive et la singularité homosexuelle, il y a non pas un refus de l'universel, mais l'idée qu'il faut inventer une nouvelle forme d'être universel, qu'on est un par un. On n'est pas tous ensemble, on est un par un. On s'additionne maladroitement, gauchement. On ne cesse de se dissembler les uns les autres. Et pourtant, on fabrique un pays, on fabrique une nation, on fabrique une salle de spectacle. Et le fait de mettre l'accent pour dire le temps de l'universel le temps de l'universel n'est pas fini, mais il faut en inventer un nouveau. Et cet universel serait basé sur une collection de singularités. Ça qui me frappe, c'est ça qui était très... vertigineux pour moi à mettre en scène. Je pense en particulier à cette singularité homosexuelle. C'est comment faire que les amours, comment puis-je moi, Arnaud Desplechin, respecter la singularité de ces amours, ne pas les prétendre universels et pourtant arriver à toucher n'importe quel spectateur en décrivant ses sentiments, en décrivant ses relations, ses couples qui se fracturent, se retrouvent, qui couchent ensemble de manière hasardeuse. Et tout ça, et cette invention d'une nouvelle universalité, je trouve qu'elle est extrêmement contemporaine.
La sexualité, l'amour, la mort, dans cette pièce, à un moment ou à un autre, ne font plus qu'un. Elle pose un certain nombre de questions, cette pièce qu'on a déjà soulevée ensemble, Arnaud Desplechin, mais sur le style, sur le ton, qui est quand même très particulier, comment la caractériser ? Drame social, comédie quand même, parce qu'il y a de l'humour, certes très noir, mais il y en a beaucoup.
Il y a une chose qui me frappe, c'est vous rappeliez que j'avais fait un Strindberg, j'ai eu la chance, invité par Ekruf, de pouvoir monter un Strindberg, et c'était Père. Et Père est une pièce qui va entièrement vers la mort. Et Kushner, embrassant cette maladie terrible qui a décimé tant et tant, c'est une pièce pour la vie. C'est-à-dire, vous sortez du spectacle, c'est une ode à la vie, bien qu'elle parle d'une maladie mortelle. Et ça me frappe très fort. Si je devais la caractériser, peut-être c'est pour ça que j'avais tant envie de l'embrasser, c'est par son impureté. C'est le fait qu'elle mélange le noble et le trivial, qu'elle mélange les cultures populaires et les cultures savantes, et je ne cesse de penser à ce mot qui m'est toujours opaque, hein, que je relis régulièrement l'article sans rien y comprendre, l'article de Bazin, le cinéma est un art impur. Et là, je tombais sur une pièce impure. Alors je me suis dit, comme je viens du cinéma, peut-être je peux aider un tout petit peu les acteurs, puisque l'impureté, c'est mon truc, quoi. Et ce mélange du noble et du populaire, des rires et des larmes, je vous disais, des influences de séries télé. On peut penser à Friends, à Seinfeld, à n'importe quoi. Le début de Théâtre de Boulevard, La Cage aux Folles, des souvenirs de Shakespeare, mais de O'Neill aussi, et tout, les quatuors de Marivaux, ces couples mal appariés qui se retrouvent, qui se défont. On peut penser à toutes ces cultures qui se brassent et qui se mélangent, et ça fait vraiment un fleuve qui vous charrie, qui vous bouscule et qui vous conduit jusqu'à la dernière scène.
Avec un travers possible, le dramaturge Tony Kushner avait mis en garde ceux qui tenteraient de l'adapter. Les enjeux sont de vie et de mort dans cette pièce. Ainsi et ainsi seulement, la comédie peut se jouer. La sentimentalité serait le danger. Voilà la mise en garde de l'auteur dans ses notes, reprise ici par Pierre Laville en préface de ce texte Angels in America. Arnaud Desplechin est notre invité jusqu'à midi et demi à l'occasion de cette pièce Angels in America de Tony Kushner qu'il met en scène à la Comédie Française.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Arnaud Desplechin, vous avez évoqué tout ce que cette pièce évoque en vous aussi, cette tradition, cette culture dans laquelle elle s'inscrit. Comprendre quand même comment vous êtes arrivé par là, vous qui êtes un homme de cinéma et qui vous retrouvez tout à coup presque sur les planches. Vous avez parlé de cette mise en scène de Brigitte Jacques-Wagemann dans les années 90 qui vous avait particulièrement frappé, marqué et qui vous a peut-être permis de rencontrer cette pièce, puis cet auteur qui se présente lui parfois comme juif, homosexuel et marxiste. Ça, c'est pas mal qu'on se disait comme définition des identités. Est-ce que vous n'y êtes pas aussi un peu arrivé par le cinéma? Vous avez notamment jamais caché votre admiration pour un Woody Allen, le grand-oncle américain, Bergman pour l'intime, Allen pour le rythme, et il y avait René, je crois aussi, pour le montage.
Et le montage.
Vous y êtes arrivé aussi par là, par cette atmosphère des films d'un Woody Allen ou d'autres, par ce New York de cinéma.
Sur les Angels, si Woody Allen a nourri,
c'est
très
votre
certainement
part américaine.
Un peu, oui, c'est ma. Vous savez, je crois souvent les gens quand je montre les films à l'étranger, les gens me disent mon Dieu que c'est français. Et régulièrement, moi qui suis que nourri de cinéma américain, je connais effroyablement mal, j'en ai honte. Hein. Oh, j'en ai pas honte, c'est comme ça, ça aurait été ma vie. Je connais très mal le cinéma français, je connais assez mal son histoire, je connais la Nouvelle Vague ou Renoir, mais sinon je suis vraiment très ignorant. Et je suis nourri de ça. Et donc bien sûr, c'est des paysages qui me sont familiers. C'est même des paysages, j'ai la fierté de les avoir filmés avec une amie, Catherine Avalen, puisque dans la pièce, parfois, il y a un écran avec les vues de Central Park qui sont filmées, ou des ponts de Brooklyn, ou tout ça. C'est moi qui les ai filmés lorsque mes films étaient invités dans des festivals à New York. J'en profitais pour filmer les plates, c'est comme ça qu'on appelle ça, les transparents, si vous voulez, qu'on projette dans la salle de cinéma à Richelieu. Donc oui, c'est, vous dire, je pense aussi avec émotion, parce que Kushner le mentionnait dans une interview, cette figure qu'on pense toujours aujourd'hui avec le temps qui passe, et puis le côté controversé du personnage de Woody Allen, on pense voilà c'est quelqu'un qui parlait de l'entre-soi et quelque chose comme ça. Et en fait, Kushner rendait hommage à Woody Allen qui était dans les premiers à s'alarmer du problème du SIDA et à porter la parole dans la presse américaine à la communauté homosexuelle quand elle se battait contre cette maladie mortelle. Et j'étais touché de retrouver ce nom que j'admire tant, vous voyez, dans les mots de Kushner.
Kushner, il l'a vu déjà, votre
mise
en
scène? Non, pas encore, il était de passage à Londres, on espérait qu'il allait venir, mais il a la promotion de West Side Story, donc il devait y retourner. Alors on a eu ses agents américains qui sont venus, et c'est drôle parce que vous parliez du sentiment, et je vous parlais tout à l'heure de la fièvre dans laquelle j'ai écrit cette adaptation, et je pense, et ses agents ont eu ce mot, ils ont dit, il faut que Tony vienne, parce que vous n'avez pas peur des sentiments. Et j'ai pris le contraire, vous voyez, de la mise en garde de Tony Kushner. Moi, les sentiments, j'avais envie que les gens pleurent. Vous voyez, c'est une pièce très drôle.
Il ne ferme pas la porte aux sentiments, il dit la sentimentalité.
La sentimentalité, ouais. C'est différent. Ouais. Et vous voyez, j'avais envie que les gens pleurent, qu'on écoute l'histoire, qu'on écoute et qu'on regarde Joe, qu'on regarde Montenez quand il sort avec Jérémy Lopez, et qu'on se dise, mon Dieu, c'est aussi beau que Star is Born. Vous voyez, c'était un sentiment aussi simple, aussi populaire que ça, celui qui m'habitait.
Vous avez dit, Arnaud Desplechin, la comédie française, pour moi, c'est Hollywood. Alors c'est vrai qu'il y a aussi quand même, on retrouve votre patte de réalisateur, de cinéaste dans cette mise en scène. Et puis, il y a tout ce qui fait le théâtre. Déjà ce qui ressort de la théâtralité de ce texte, mais aussi les changements de décor, les trappes, les suspensions. Vous vous êtes amusé, vous, à jouer avec tous ces effets scéniques?
Oui, mais c'est Kushner qui parle aussi dans un texte qui était cité par François Regnault. Il parle, j'adorais ça, il disait deux petites choses. C'est très bref, il disait cette pièce invite au merveilleux théâtral, et il écrivait théâtral à l'américaine en lettres capitales, vous voyez, le merveilleux théâtral, et donc on s'est servi de tous les artifices du théâtre possible, les fumées, les trappes, les suspensions comme vous disiez, les split screens, les flashbacks, tous les artifices du théâtre nous étaient bons pour provoquer ce côté. Il y a un côté très politique, très engagé, très frontal, avec même les dispositifs de rideaux qui ramènent les spectateurs à l'avant et qui ont une adresse brechtienne, je pense à la scène du rabbin qui ouvre le spectacle, ou du dernier communiste Alexis qui ouvre la deuxième partie du spectacle. Et en même temps, il y a un désir de Broadway chez Kushner qui m'emballe, vous voyez, ce désir impur. Il y a le désir de faire compétition au cinéma, et cette compétition au cinéma, il l'exprime de façon très drôle. Il dit si le metteur en scène désire que l'ange vole, Et il rajoute entre parenthèses, et c'est tout à fait souhaitable, prévoir 2 jours de répétition en plus. Alors nous, Florence Viala, vole.
Voilà, il fait voler les anges et aussi les fantômes. C'est un art de la réparation de théâtre. Hein. C'est aussi comme ça, en tout cas, qu'ont souvent été qualifiées les œuvres de l'artiste Kader Attia, Réflexion autour des fantômes, avec vous, Arnaud Desplechin. Rappelons que c'était le titre de votre avant-dernier film, Les fantômes d'Ismaël, on les retrouve ici.
Est-ce qu'il est possible d'imaginer que le manque, l'absence d'une partie d'une communauté puisse créer des spectres qui reviennent et appellent réparation, comme ça, psychologiquement? Finalement, quand on sait justement que le membre fantôme est le dénominateur commun entre l'individu amputé et un groupe social amputé, c'est la douleur, quelle possibilité de réparation avons-nous? Alors, le deuil. Qu'est-ce que le deuil? Est-ce que le deuil répare? Est-ce que le deuil, au contraire, nous enfonce? C'est d'ailleurs la question que je pose à Boris Cyrulnik. Il dit, le deuil, enfin, l'une des manières de réparer, je dirais, le deuil, c'est la culture et l'affection. Il y a une possibilité de réparer ces traumatismes qui nous hantent, hein, ces spectres qui nous hantent, qui appellent réparation, en utilisant l'affection et la culture.
Voilà. Est-ce que, à la manière de Kader Attia, pour vous, Arnaud Desplechin, Kouchner transpose aussi les morts qui le hantent, qui le hantent, qui n'ont pas qui le hantent à travers les fantômes ou les anges de cette pièce?
Ah, je pensais deux choses. C'est les morts sont, il y a toutes ces morts que Kouchner a croisées. Il y a une réparation profonde. C'est ça, cet appétit de vie qu'il y a dans la pièce. Quelque chose est réparé, quelque chose est pensé dans le dernier monologue de Pryor. Et tous ces morts évoqués sur scène. Et c'est dans un monde où tout est poreux, ce merveilleux théâtral dont je vous parlais, où tout peut arriver. Les hallucinations, les personnages passent d'un monde à l'autre et comme ça, c'est le merveilleux théâtral.
Le théâtre, dites-vous, c'est longtemps refusé à vous et voilà que vous vous êtes décidé donc en 2015. Elle a fait le chemin inverse, elle est passée de votre film, d'un film au théâtre, présenté à Cannes en 2008. C'est un conte de Noël avec Mathieu Amalric, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Melville Poupeau. Il est à voir en ce moment aux ateliers Berthier sur une mise en scène de Julie Deliquet, adaptée donc du scénario que vous aviez coécrit avec Emmanuel Bourdieu. Là encore, on est entre drame familial et comédie chorale. Cette dimension littéraire dans vos films, on la connaissait. Il y a aussi, du coup, maintenant, et vous l'avez découvert peut-être en allant voir cette pièce de Julie Deliquet, une dimension théâtrale dans vos scénarios.
Je m'en rendais pas compte. Vous voyez, j'ai découvert le spectacle de Julie Deliquet avec un enthousiasme qui n'a aucune borne. Vous voyez, ce spectacle m'a enchanté. Elle est virtuose. Hein. J'avais tant aimé son Tchekhov, le Vania à la Comédie Française, comme l'adaptation de Bergman du Fanny Alexandre. Et ce spectacle-là, ça me faisait tout bizarre. En même temps, c'est différent du film. Alors parfois, je me souvenais, je me disais, tiens, j'écris ça. Et c'est merveilleux parce que quand vous écrivez des scénarios, c'est très périssable. Je crois que les films sont plus périssables que les mises en scène de théâtre. Les mises en scène de théâtre restent dans les mémoires. Les films, c'est éphémère. C'est un art un peu voyou, un art mineur. Et voilà que ce que j'avais filmé faisait texte pour Julie Deliquet. C'était ma plus grande fierté.
Et voilà qu'à quel âge?
Quel âge?
Vous avez...
J'ai atteint les 60 ans.
Et voilà qu'à presque 60 ans, même pas 60 ans, vous entrez déjà au répertoire de metteurs en scène contemporains comme Julie Deliquet. C'est une consécration. Merci beaucoup à vous, Arnaud Desplechin. Alors, plusieurs dates à vous donner. Il y a ce conte de Noël à voir aux ateliers Berthier. Il y a aussi et surtout Angel Cine America de Tony Kouchner, mise en scène par vous, à voir à la Comédie Française. C'est jusqu'au 27 mars. À noter donc cette entrée au répertoire du texte et l'enregistrement au printemps d'une version radiophonique de Angel Cine America. Diffusion avant l'été, ce sera une création France Culture en partenariat avec la Comédie Française, sans vous, mais réalisée par Cédric Ossir, avec peut-être plus de textes, plus de personnages, plus de comédiens, une autre manière d'envisager ce texte. Merci beaucoup.
Merci à vous.